Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Un courtier de chez IG se dit que le Bitcoin pourrait bien tomber à 13 000 dollars. Alors après la débâcle de FTX, la question de savoir s'il faut ou pas réguler ces crypto-actifs se pose. Seulement, c'est justement l'absence totale de régulation qui a créé toute l'énergie autour de ces actifs spéculatifs. Et donc la question est vraiment posée. Et il y a une étude de la BRI qui indique qu'entre 2015 et 2022, en moyenne, 80% des acheteurs de Bitcoin ont perdu de l'argent. Le chiffre est tombé ce matin à 7h30, il est de l'INSEE, c'est le taux de chômage en France. Bon, c'est un peu l'épaisseur du trait, mais c'est une baisse de 0,1 point à 7,3%. Alors finalement, est-ce que les choses ne vont pas si mal que ça? Au moment où, vous le savez, Bruxelles s'attend à une récession en zone euro dès le quatrième trimestre de cette année. Hier, l'OPEP nous a dit que la demande de barils de pétrole allait baisser en 2023 de 2 200 000 barils jour. Ce n'est pas l'épaisseur du trait. Et puis, c'est un signal comme un autre, mais le prix du fret maritime a retrouvé son niveau d'avant Covid. Alors, est-ce que c'est un atterrissage en douceur ou le signe d'un ralentissement, justement, de l'activité? Ça aussi, c'est un peu l'épaisseur du trait, mais c'est un signal. La Bourse de Paris détrône la City de 2 milliards d'euros. Il y a 2853 milliards d'euros de capitalisation à Paris, 2 milliards de moins à Londres. Normalement, c'est quand même quelque chose qui ne s'était jamais produit. On évoquera également un nouveau chiffre qui n'est pas encore officiel, mais après Meta, c'est Amazon qui pourrait supprimer 10 000 postes, c'est ce qu'indique le New York Times. Les temps sont durs aujourd'hui, clairement, pour les GAFA, bon, à l'exception d'Apple, qui d'ailleurs va bien parce qu'il vit sur un vrai produit, voilà, un vrai produit qui s'appelle l'iPhone. Et puis, j'ai trouvé ce chiffre absolument fascinant, l'Irlande s'inquiète un petit peu. Eh bien oui, parce que 10% des recettes fiscales de l'Irlande proviennent de 10 multinationales américaines. En gros, si vous retirez les GAFA, Microsoft, Intel, Pfizer, Merck, Coca-Cola, Johnson & Johnson, le fabuleux miracle fiscal irlandais s'écroule. Nathalie Janson, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Professeur à Neoma Business School, qui est le rapprochement des écoles de commerce de Rouen et de Reims. Sylvie Matera, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes économiste, senior advisor du cabinet de conseil d'audit Mazars. Vous avez contribué à une époque de votre vie aux travaux du comité de Bâle. Ça m'intéressera d'avoir votre avis sur la régulation ou pas qui s'impose autour des fameuses cryptos. Et Ronan Lemoelle, bonjour.
Bonjour.
Fondateur d'Épopée Gestion, fonds d'investissement régional. Ça fait 3 jours, Nathalie Janson. Vous êtes une fan de crypto. 3 jours que je dis, je peux le dire vulgairement ou proprement. Il n'y a pas de too big to fail avec FTX, il n'y a pas de risque systémique. Voilà, on a joué, on a perdu, c'est la vie de celui qui va au casino, je vais me faire détester. Quel est votre avis?
Oui, effectivement, vous allez vous faire détester. Voilà, ça c'est une certitude. Pour le reste, oui, alors cette affaire, elle est effectivement elle est impressionnante parce qu'elle est dans... En fait, la chute est aussi impressionnante que l'ascension.
Ah ben, tout à fait. Ça voilà, valait 32 milliards de dollars de capi il y a encore une semaine.
Oui, puisque c'était effectivement le petit dernier FTX dans le monde des plateformes de trading. Il est arrivé en 2019 par rapport à des dinosaures comme Coinbase qui était là à la première heure.
Ah oui, Coinbase.
2013, ça nous semble extrêmement lointain tout ça. Effectivement, c'était le petit dernier qui était fait exactement pour le trading en crypto. Donc il était sur tous les montages qui permettaient de prendre des positions sur les cryptos. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu du succès, parce qu'il est arrivé au bon moment, parce que 2021, c'est l'année crypto, et c'est l'année crypto en termes de trading. Alors je ne vais pas faire ma rabat-joie, mais il y a un petit lien quand même avec la masse de liquidités qui circule dans l'économie, dans cet effet positif sur les plateformes de trading.
Ça, je vous l'accorde. Hein.
Voilà. Et c'est d'ailleurs aussi le fait qu'il y a eu un serment de la politique monétaire américaine qui met effectivement ses acteurs en difficulté.
Bah, FTX visiblement a fait des montages légèrement hasardeux.
Oui, mais
qui sont pas liés aux décisions de la Fed.
Avec la remontée des taux, les montages hasardeux se révèlent carrément au niveau de l'épuration. C'est-à-dire que effectivement,
j'aime bien le terme d'épuration.
Voilà.
Oui.
Il est monté vite et il va descendre encore plus vite puisque on a et je pense que là où l'impact est très important, c'est que contrairement aux autres acteurs dont on a pu entendre parler avant, Celsius, enfin, c'était plus confidentiel, c'était plus pour les personnes.
C'est pas le premier trépas dans le domaine.
Voilà, exactement. Mais c'était des activités spécifiques de la crypto, pas de personnage principal. Lui, c'était un personnage.
Ah oui, deuxième donateur du Parti
exactement,
démocrate.
Exactement. Il était accepté.
Je pense qu'il avait arrêté de donner.
Voilà, il était accepté dans tous les milieux. Il avait dit qu'il voulait collaborer pour une réglementation fait ensemble au mieux. Enfin, il s'était même fait dernièrement avec la baisse des marchés crypto et donc les premières faillites. On lui avait même donné le surnom du prêteur en dernière sort du marché crypto. Donc, on lisait régulièrement dans les articles spécialisés de la presse crypto que c'était donc ce personnage. Il faut savoir qu'il y a même pas 3 semaines, il disait que tout allait bien et qu'il allait lancer son stablecoin. Voilà, pour faire comme Binance, puisqu'en fait son grand modèle concurrent, c'est Binance, qui est effectivement la plateforme la plus importante en termes aussi de trading, puisqu'en fait FTX a
fondé à Hong Kong, mais inscrite au Delaware d'ailleurs.
Pour Binance.
Oui.
Alors là, il faut savoir qu'en fait, elle est interdite aux États-Unis, Binance.
Comment ils peuvent être inscrits au Delaware?
Parce qu'ils ont dû faire une société exprès au niveau des États-Unis. Ils étaient sous une.
Bon, on digresse, Nathalie. Mais
voilà.
Bon.
Voilà. Donc en fait, c'est ça, je pense, qui est aujourd'hui qui a le plus impressionné. Et puis, qui a aussi pris de surprise, je pense, les gens les plus établis, c'est qu'en fait, ils se sont fait berner. C'est-à-dire qu'en fait...
C'est pas une escroquerie, ils se sont fait berner.
En tout cas, ils ne voyaient pas voir si c'est une escroquerie, mais les gens établis se sont fait berner.
Mais on est d'accord.
Ils ne s'attendaient pas du tout à découvrir un personnage aussi escroc qu'en fait, on le découvre au fur et à mesure de...
D'ailleurs, c'est Nathalie Janson nous racontait, Sylvie Matera nous racontait qu'elle l'avait vu sur scène.
Il était connu pour ça, pour arriver très décontracté.
Il monte et Jamie Dimon monte derrière, donc c'est quand même un personnage qu'on avait vraiment porté au nu.
Oui.
Mais la question que je pose, il y a un risque systémique, Sylvie Matera, ou pas?
Alors, bon, d'abord, pour revenir sur votre anecdote, effectivement, qui illustre tout à fait le fait qu'il y a un mois à peine, c'était encore une star. Effectivement, aux réunions du FMI...
Il s'appelle Sam Bankman-Fried. Hein,
voilà. Vous. Aux réunions du FMI, il y a un mois, il était invité à ces réunions. Il y a aussi le lobbyiste international des grandes banques mondiales. Et donc, il avait été invité par cette organisation et il nous a fait une démonstration sur scène. Alors, il est arrivé en Bermuda, t-shirt et tennis au milieu de tous ces messieurs en costume cravate pour nous expliquer à quel point on était ringard, quoi, que la finance traditionnelle était dépassée et que non, il nous a expliqué le miracle de la nouvelle finance et un mois plus tard, finalement, il est plus rien. Donc, c'était. Mais là, je pense que, effectivement, ce qui est problématique dans sa plateforme, c'est. Là, on parle des cryptos, mais c'est une plateforme de trading. Il aurait pu faire du trading de n'importe quoi, de jus d'orange. Donc, ce qui pose problème, c'est la faillite d'une plateforme de trading. Donc, je crois qu'il y a deux éléments. Il y a ces plateformes en tant que telles, et puis il y a aussi le fait qu'il y avait sans doute des aspects fraudes. Enfin, on n'a pas forcément d'éléments probants, mais il y a de forts doutes qu'il y avait des aspects fraudes dans cette histoire. Mais, nonobstant ces aspects-là, tous ces fonds, ces plateformes, en fait, qui investissent, qui achètent ou vendent des produits, en l'occurrence des cryptos, mais encore une fois, ça pourrait être autre chose, peuvent aussi avoir en gestion, en quelque sorte, des fonds d'investisseurs qui attendent d'être placés dans ces produits-là. Et il n'y a pas de réglementation sur ces éléments-là.
Il n'y a pas de réglementation.
Et donc, en fait, le risque que courent ces fonds, mais encore une fois, c'est vrai pour cette plateforme, mais c'est vrai pour tous les fonds d'investissement, c'est que c'est un risque de liquidité. C'est-à-dire, au moment où les investisseurs qui vous déposent de l'argent dans ces plateformes ou dans ces fonds ont peur, ils retirent leur argent.
Ça s'appelle un bank run.
Comme ces établissements-là font du levier, c'est-à-dire que quand on leur dépose, je sais pas moi, 10 millions, ils investissent 100. Si les gens commencent à retirer leur argent, en fait, ils ont plus les liquidités en face pour rembourser ces éléments-là. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est un phénomène très classique. C'est ce qui s'est passé il y a 3 semaines au Royaume-Uni quand les fonds de pension ont commencé, les investisseurs dans les fonds de pension ont commencé à retirer leur argent. C'est ce qui s'est passé là. Les investisseurs ont pris peur parce qu'il y avait des rumeurs sur effectivement les aspects fraudes de cette plateforme et de ce créateur de plateforme. Et donc, ils ont retiré leur argent et comme il n'y avait pas assez de liquidités en face pour rembourser ces gens-là, on a un effet faillite.
Oui, mais alors ce que vous décrivez, Sylvie Matera, c'est qu'effectivement, là, on parle de quelque chose qui était pour l'instant centré sur les cryptos. Mais en fait, ça peut arriver partout. Et compte tenu de la taille de cette finance non régulée, alors je ne sais pas si c'est le shadow banking, si le terme correspond à ce que vous décrivez, en fait, les risques systémiques sont parfaitement possibles.
Alors, les risques systémiques...
D'ailleurs, on dit toujours aujourd'hui que les banques, ça va plutôt bien et qu'on n'est pas trop inquiets, mais que le reste...
Alors, les risques systémiques...
Et dans le reste, on met les assureurs, par exemple.
J'ai vu qu'il y avait beaucoup de discours sur est-ce que c'est too big to fail. Et en fait, la taille est importante, mais ce n'est pas seulement la taille. Ce qui est important, c'est l'interconnexion. C'est bien, est-ce que la faillite d'un des acteurs est susceptible de générer la faillite d'autres acteurs parce qu'il y aurait des liens entre eux? Et en fait, au moment de la crise financière de 2008, ce qui s'est passé, c'est que Lehman Brothers, les autorités avaient mal anticipé les liens que cet établissement avait avec le reste de la sphère financière. Et donc là, il semblerait que ces plateformes, en tout cas, sont finalement auto-centrées. C'est-à-dire qu'il y a très peu de liens entre les banques traditionnelles et ces plateformes. Et donc, même si elle est assez significative en termes de taille, puisque c'est la deuxième plateforme de trading après Binance...
En volume,
ouais,
pas en utilisateur.
Même si ça n'a pas d'aspect systémique en tant que tel, parce qu'il n'y a pas de lien avec d'autres acteurs. Et donc, sa faillite ne risque pas d'entraîner des réactions en chaîne. C'est ça, le risque systémique, c'est quand ça enchaîne des risques dans l'ensemble du système financier.
Et puis en plus, en 2008, on s'est rendu compte qu'au-delà de Lehman Brothers et des interconnexions qui pouvaient exister, il y avait l'ensemble de ces produits de marché qui avaient été... fabriqué avec au terme d'une titrisation très intelligente tant que tout fonctionnait et qui avait inondé le reste du monde de ces fameux crédits
alors,
subprime.
Alors, je crois qu'il faut se rappeler d'un truc très très bête qui était vrai dans ces produits-là que vous mentionnez, mais qui est vrai aussi sur le crypto, c'est qu'il n'y a pas de rentabilité sans risque. Si un jour on vous dit qu'un actif dans un environnement où une inflation est très très basse vous rapporte un bon rendement, c'est qu'il y a un loup derrière. Et le loup, c'est en général le risque. Donc ça, c'est un truc de base, mais il n'y a pas de rentabilité sans risque.
Ronan Le Moal, vous êtes le troisième à intervenir sur le sujet. On parlera vraiment de la question de la régulation, à moins que vous vouliez partir là-dessus. Par rapport à tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que ça vous inspire?
Pour focaliser sur les crypto-actifs en tant que tel, pas revenir sur le
vous
trading.
Aussi, vous dites actif et pas monnaie?
Moi, j'ai dit crypto-actif, c'est pas une monnaie.
Ah, ben alors, vous allez rentrer en guerre face à Nathalie.
En tout cas, pour ce qui me concerne, je considère que c'est les crypto-actifs en tant que tel.
Je suis un peu votre avis.
Moi, j'ai toujours dit, j'ai été invariant là-dessus, et malheureusement, je constate que c'est ce qui se passe, c'est que de deux choses l'une, où ces actifs sont régulés, et pour le coup, ils perdent toute la saveur, l'intérêt que tous ceux qui investissent peuvent y voir. Et dans ce cas-là, ça ne vaut plus grand-chose.
Ah,
ou alors, ils ne sont pas régulés et ça donne des zones d'ombre comme celles qu'on peut voir aujourd'hui. Et dans ce cas-là, il faut s'en éloigner parce qu'effectivement, c'est très dangereux. Donc moi, quand j'étais dans mes anciennes fonctions, quand j'étais banquier, on m'a proposé des dizaines de fois d'intervenir sur ces sujets. Et je ne suis pas allé pour ces deux raisons. Parce que d'un côté comme de l'autre, régulé ou pas régulé, ça me paraissait trop dangereux. Pour autant... Dans les cryptoactifs, pour moi, il y a deux choses. Il y a le cryptoactif en tant que tel, et il y a la technologie sous-jacente.
La blockchain.
Ah oui, et la blockchain en tant que tel, c'est parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est une technologie qui peut être très intéressante dans pas mal de sujets sur lesquels on veut effectivement décentraliser, c'est-à-dire ne plus passer, ce qui est un peu la genèse de tous ces acteurs, essayer de s'affranchir des plateformes de centralisation sur les marchés, par exemple les chambres de compensation, dans les paiements, effectivement, ceux qui font l'interbancarité, essayer de passer à quelque chose qui soit totalement décentralisé. Et donc je pense que autant la technologie blockchain peut avoir pas mal de débouchés, notamment dans la finance, la banque, etc., il y a pas mal de choses à faire, autant pour ce qui concerne les crypto-actifs, moi j'ai toujours dit, et malheureusement on voit ce qui se passe encore aujourd'hui, parce que même s'il s'agit d'une plateforme de trading, il y a comme le sous-jacent qui est quelque part en cause derrière, plus l'attitude du personnage on va dire, et j'ai toujours dit qu'il fallait rester très éloigné de ça, parce que encore une fois, de deux choses l'une, ou c'est régulé, ça ne vaut rien au sens de la valeur qu'on lui donne aujourd'hui, ou ça ne l'est pas, ça, et c'est opaque, dangereux,
et faut s'en éloigner. C'est essentiel ce que vous dites, soit c'est régulé, si c'est régulé, ça ne vaut rien.
Non,
c'est la question suivante.
Bah, si.
Bon, alors non. Qui commence?
En tout cas, ça ne vaut rien au sens de la valeur qu'on lui attribue aujourd'hui.
Oui, alors, sur la réglementation...
Tous ceux qui sont... Enfin, il y a un côté un peu religieux, on le sait, derrière les cryptos, et ceux qui sont aficionados de la crypto-monnaie considèrent que c'est la
blockchain.
Juste par de la valeur patrimoniale, sur la valeur de... Parce que dans cette valeur de ce produit, il y a la valeur peut-être de la monnaie, telle que certains voudraient y voir, mais aussi la valeur de l'actif en tant que tel, de la plateforme, la manière dont elle gère les produits, etc. Et moi, je pense que si c'est régulé, si ça devenait une monnaie, effectivement, ça n'aurait plus cette couche de valeur qu'on lui attribue, qui est quand même montée très très haut pour laisser aujourd'hui très très bas.
Oui, enfin, c'est incroyable.
Sylvie Matera et Nathalie Jorson, sur la partie régulation.
Alors, la réglementation,
d'abord,
je trouve ça un petit peu inquiétant de dire que si c'est régulé, ça perd tout son intérêt, sachant que du coup, les investisseurs seraient intéressés uniquement par l'aspect opacité, ce qui est quand même un petit peu...
Je dis ça, l'aspect spéculation.
Bon, alors avant de réglementer, je pense qu'il y a quelque chose de très important à faire, c'est des obligations de transparence, d'information financière.
C'est déjà un peu de la régulation.
C'est assez soft quand même.
C'est soft.
Mais faire en sorte, parce qu'en fait, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas tellement d'établissements financiers qui étaient pris dans cette tourmente. Mais il y a des investisseurs, notamment des investisseurs particuliers, qui ont voulu investir sur le crypto, qui eux vont perdre leur argent. Et en fait, ils ont été incapables d'estimer leur propre risque parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'informations sur justement cet établissement. Donc je pense que la première chose à faire avant de réglementer, c'est d'obliger à donner de l'information financière pour que les investisseurs fassent leur travail. C'est-à-dire qu'ils regardent quel est le risque qu'ils prennent.
Par rapport à la plateforme qu'ils utilisent. Parce que l'actif en lui-même, depuis le début, tout le monde sait qu'il y a un risque très important.
Alors, par ailleurs, la réglementation. Moi, je pense qu'en matière de réglementation, et c'est vrai d'ailleurs pour l'ensemble des fonds d'investissement, Le principal risque qu'il court, c'est que des gens demandent le remboursement et qu'il n'ait pas suffisamment d'actifs liquides pour effectuer ces remboursements. Donc, il faut absolument, et si j'étais encore régulateur, je pense que je plaiderais pour un renforcement de la réglementation sur la liquidité. C'est-à-dire obliger ces établissements, c'est le cas pour les banques, on leur oblige à avoir un certain pourcentage d'actifs liquides pour faire face aux dépôts. Vous savez, des banques ont des dépôts à vue, on leur oblige à avoir un certain nombre d'actifs liquides pour pouvoir être en mesure de rembourser ces défauts. C'est ce qui assure la sécurité des investisseurs. Je pense que ces fonds d'investissement devraient respecter une réglementation sur la liquidité pour éviter ce genre de choses.
Nathalie, par rapport à cette question de la régulation, parce que je pense qu'il y avait quand même le côté un peu libertarien. Et si on régule le côté libertarien, c'est là où je rejoins un peu Ronald Moal, voilà, si on commence à mettre du crypto-bal 3, je le dis de manière un peu tordue, mais c'est un peu ça l'idée, c'est moins sexy.
Alors, il faut distinguer deux choses. Donc, ce qui s'est passé avec FTX, c'est donc une plateforme, ce qu'on appelle la CeFi, c'est-à-dire la centralisation. Or, la blockchain et des blockchains comme le Bitcoin, parce que c'est une blockchain, le principe est à l'opposé, c'est la décentralisation. Et donc, la transparence de l'information. C'est-à-dire que si vous voulez aller voir les informations sur le Bitcoin, vous pouvez y aller. Vous verrez les adresses, vous verrez les montants, vous verrez les transactions. Il n'y a aucun problème de transparence sur la blockchain, puisque justement, c'est ouvert. Par contre, ce qu'on voit avec la plateforme, c'est que dès lors où on fait du trading, on va s'adresser, c'est-à-dire qu'on va passer par une plateforme, et effectivement, là, se pose le problème et arrive le problème de l'opacité.
Et de la savoir liquidité disponible.
Exactement, bon. De celui qui gère la plateforme. Mais en aucun cas, et d'ailleurs, Binance a très bien réagi, je trouve qu'il fait preuve, il est assez doué, hein, ce fameux Binance, le fameux CZ, c'est son surnom dans le milieu,
parce qu'il a
tout de suite dit hier, je vais vous publier tout ce que j'ai, mes réserves. Donc, il a lancé le mot d'ordre de l'obligation de publication de réserve, où il a mis toutes ses détentions de portefeuille. Et donc, on peut aller voir, on peut aller vérifier quelles sont les adresses, quelles sont les transactions.
On peut que lui faire confiance.
Non, on peut aller voir les adresses.
Oui, mais on peut faire confiance qu'à ce qui est publié. Il n'y a pas d'autorité de régulation.
Après, c'est dans toutes les publications, c'est pareil. On peut pas. Après, vous pouvez mettre des auditeurs de la Pourquoi pas? Il a aussi appelé pour qu'il y ait un fonds comme un fonds de soutien, comme on pourrait avoir à l'époque, il y a très longtemps, des banques comme une solidarité de place avec un fonds.
Ah ben, ça existe. Hein,
oui, toujours, bien sûr.
Mais
ça a été créé il y a très longtemps par les banques elles-mêmes et non pas par le régulateur. Faut pas l'oublier non plus. Les banques, enfin, le milieu, il a pas intérêt à avoir ça. Il faut bien voir que pour eux, c'est un coût aussi d'avoir une plateforme comme ça qui disparaît. C'est un coût réputationnel. Enfin voilà, donc ils n'ont pas intérêt à ce que ça perdure. Donc ils ont aussi intérêt à ce que ça ne se reproduise pas. Et il faut savoir d'ailleurs que Binance, lui, proposait une assurance à ses déposants. Il avait un petit fonds qui était dédié et qui était dans les contrats. C'est-à-dire que vous avez aussi des plateformes qui sont un peu plus intelligentes ou en tout cas qui ont plus ce souci de se dire si jamais j'ai des déposants qui s'affolent, il faut que je fasse en sorte qu'ils ne s'affolent pas trop vite. Alors que là, on voit bien qu'FTX, c'était vraiment la plateforme des super traders.
Ce qui est certain, c'est que avant que le régulateur ne s'en empare, s'ils ne font pas eux-mêmes, s'ils ne demandent pas eux-mêmes un peu patte blanche, ils sont à un moment où le truc peut vraiment basculer.
Complètement.
Il y a un courtier qui pense que 13 000 $, c'est parfaitement imaginable pour le Bitcoin.
Ça fait plusieurs fois déjà au mois d'avril, on disait que c'était à 12, à 10.
La BRI considère que en l'espace de 7 ans, 80% des gens ont perdu.
C'est parce que les gens qui vont dessus vont au moment où ça a du succès. C'est-à-dire qu'ils ont pas
raison. Ça va baisser.
On marque une pause en 50 secondes. Renan, et puis après, on avance.
Moi, c'est pas tellement dire que la régulation, c'est pas bien, etc. Ou la transparence. Bien sûr, je suis pour ça, par définition. Par ma personnalité, par mon métier. Ce que je dis, c'est que beaucoup de personnes qui ont été attirées par ces plateformes, les cryptos qui étaient dessus, etc., n'y étaient pas pour les bonnes raisons. Ils y allaient parce qu'effectivement, l'effet de mode, la valorisation qui s'envole, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, souvent, il y a des cours qui décrochent. Et donc, c'est là où je dis que typiquement, en termes de raisons et de valeurs d'actifs patrimoniales pour lesquels ces gens-là allaient dessus, ça n'était pas des bonnes motivations. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut rester éloigné. Si demain, effectivement, ça devient transparent tel que peut l'être une monnaie éventuellement régulée, ce que je dis simplement, c'est que ça devient une plateforme comme une autre, régulée, avec des gens qui, effectivement, assurent le transport. Et donc, pour ceux qui venaient au départ pour la valeur patrimoniale, combien ça peut valoir ? Ça vaudra moins cher.
Voilà. Bon, j'ai vu des enquêtes d'opinion, ce ne sont que des enquêtes d'opinion, mais clairement, la majorité allait vers ces actifs pour le côté libertarien et pour gagner de l'argent. Il n'y allait pas pour avoir une réserve, un patrimoine. Voilà, c'était quand même très spéculatif. Bon, ça va être hyper intéressant de suivre l'évolution de ce marché.
Tout à fait.
C'est là qu'il vient, prend un petit coup dans l'aile quand même. On marque une pause. Le taux de chômage a très peu reculé, mais il a reculé à un moment où il y a pourtant des signes de récession et de ralentissement de l'activité qui s'installent. Est-ce que les choses ne vont pas si mal que ça? On posera la question à tout de suite.
Débat et controverses sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Sylvie Matera, économiste et senior advisor du cabinet de conseil d'audit Mazars. Et Ronan Lemoal, le fondateur d'Épopée Gestion, fonds d'investissement régional. Il y a cet auditeur, J. De Chevry, qui me dit que la consommation... Alors, ce sont ses chiffres à lui, mais la consommation d'énergie du Bitcoin est comparable à celle d'un pays comme l'Argentine. C'est une hérésie, dit-il. Il affirme dans un autre tweet qu'il m'envoie que ça représenterait 9 centrales nucléaires. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est vrai que... Et puis après, j'ai même certains qui mettent en cause la blockchain elle-même, voilà, considérant qu'elle est coûteuse en ressources et peine énormément à trouver des applications industrielles. Je pense qu'il ne faut pas enterrer la blockchain trop vite. On a voulu enterrer Internet après la bulle web des années 2000-2001. Bah, les acteurs les plus fragiles ont disparu de manière naturelle et les plus solides sont bel et bien installés. Et c'est bel et bien là, la 4G et tout ça. Et on peut penser par exemple à Apple et Amazon qui datent d'avant la bulle web. On a eu le chiffre ce matin de l'INSEE, Ronan Lemoal. Taux de chômage, donc au sens du Bureau international du travail, bon, moins 0,1 point, 7,3%, 2 250 000 chômeurs en France au sens du Bureau international du travail. Ne pas confondre le taux de chômage de l'INSEE et les entrées et sorties à Pôle emploi publiées trimestriellement par Pôle emploi, ça n'est pas la même statistique. On a l'impression que tout va aller mal. Bruxelles nous dit que c'est la récession qui vient. L'OPEP voit la consommation de pétrole probablement péricliter dans 2023. Puis on continue à avoir des signaux sur les créations d'emplois, finalement sur le moral des chefs d'entreprise qui sont en désaccord par rapport au climat ambiant.
En fait, il y a un espèce de contraste effectivement assez saisissant entre ce qu'on peut observer sur le terrain et puis ce qu'on entend de manière un peu macro. Alors effectivement, de manière macro, à force de monter les taux, d'arrêter les programmes d'injection de liquidités, on va effectivement voir l'activité ralentir tout doucement, parce que c'est fait pour aussi, et donc effectivement moins de consommation de pétrole, le fret maritime, on parle peut-être qu'il va ralentir, etc. Ça, c'est vrai. Pour autant, sur le terrain, quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde les entreprises, on en voit tous les jours, puisqu'on est investi, il y a une très grande résilience, il y a des résiliences sans résistance. Même quand le coût de l'énergie augmente, les boîtes ont appris à serrer la ceinture, comme on dit, à faire face à des tempêtes assez sévères, comme on les a connues ces dernières années. Et au-delà de ça, beaucoup d'entreprises ont des beaux projets de développement. Donc effectivement, tout n'est pas si noir que ça. C'est peut-être nous qui voulons voir le noir dans toutes les nouvelles qui nous sont annoncées. Mais en tout cas, moi, je crois plutôt à un atterrissage en douceur, comme on dit souvent. Effectivement, une inflation qui va ralentir, mais je ne vois pas l'économie s'écrouler d'un coup. Et surtout, ce que je vois dans le tissu d'entreprise classique, hein, PME, ETI, c'est plutôt les entreprises qui ont des projets de développement, des projets de croissance externe, des projets de nouveaux marchés, qui commencent à voir tout doucement le prix des matières premières baisser. Je ne parle pas l'énergie. Je parle des matières premières.
Ouais, même l'énergie, le mégawatt-heure au gaz, il a reculé.
Même l'énergie. Mais donc, en fait, on voit effectivement qu'il peut y avoir un espèce de contraste entre peut-être le discours ambiant macro, qui est celui des économistes, des banquiers centraux, etc., et puis ce qu'on observe sur le terrain, qui dénote effectivement d'un côté. On a fait ce qu'il fallait pour faire ralentir l'inflation, ça va arriver et donc ça va générer une récession, mais plutôt au sens technique du terme. De l'autre côté, des entreprises qui disent, ben oui, effectivement, ça ne va pas s'écrouler, les boîtes continuent à investir, moi j'ai des projets, je continue à grandir. Nous, on continue à faire les investissements tous les jours dans les entreprises qui n'arrêtent pas de faire de la croissance externe notamment. On réunissait 50 chefs d'entreprise.
Chez Épopée Gestion, vous ne voyez pas de ralentissement?
Aujourd'hui, non. On voit des entreprises qui nous disent, par exemple, le coût de l'énergie ou la part de l'énergie dans mes charges a augmenté considérablement, ça bien sûr, on le voit, et donc elles s'en inquiètent et c'est normal. En revanche, ces entreprises-là ou d'autres continuent à nous dire, ben nous, on a des projets de croissance externe. Là, on regarde des beaux projets de boîtes dans l'agroalimentaire, dans le transport, dans le BTP, qui continuent à avoir des beaux projets. Donc, il y a effectivement ce contraste qui est peut-être pas si surprenant que ça. C'est-à-dire qu'on a peut-être voulu crier très fort pour dire, attention, attention, il va falloir, le mur arrive. Et la réalité, c'est qu'on va peut-être arriver tout doucement à un atterrissage tout doux.
C'est un truc que je constate vraiment dans cette émission, parce qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise qui viennent. Il y a toujours un énorme décalage de vision et de perspective entre ce que dit l'économiste et ce que dit le chef d'entreprise. Ça a été vrai il y a un an et demi sur que va faire l'inflation. Quasiment tous les chefs d'entreprise me disaient, vous inquiétez pas, elle revient, elle est là, elle est bien là, et vous ne pensez pas que ça va durer 6 mois. Bah, ils avaient raison.
Exactement.
Alors peut-être qu'ils ont raison justement sur leur perspective. Ça ne va pas si mal que ça, Sylvie ?
Non, moi je trouve que ça ne va pas si mal que ça. On va peut-être réussir à avoir ce soft landing, donc atterrissage en douceur, qui est un petit peu le fantasme des banquiers centraux. On va peut-être y arriver finalement.
C'est bien d'appeler ça un fantasme, parce qu'aucun des banquiers centraux ne sait exactement s'il est sur les bons rythmes.
Mais moi je pense que ça ne va pas trop mal. Finalement, cette retour de l'inflation et ce durcissement du discours, hein, en gros, des banquiers centraux et des décideurs politiques, est arrivé à un moment où, en fait, on avait trop de goulots d'étranglement post-Covid. Et donc, ça a permis de faire une pause et de reconstituer doucement les stocks. D'ailleurs, vous signaliez que le prix du fret était revenu à son niveau d'avant-crise. Donc, je pense que cette espèce de pause dans cette croissance effrénée post-Covid est une très bonne chose, va sans doute permettre un retour à la normale plus facile. Je crois d'ailleurs les bons chiffres que vous avez signalés font écho aux bons chiffres qu'on a vus aux États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est quand même de l'ordre de la virgule, hein, mais quand
c'est
même.
C'est de la virgule, oui.
Quand même, c'est un signe. Et donc, moi, je crois que la Fed va commencer à baisser le rythme de son augmentation des taux. C'est-à-dire qu'on était à 75 points de base d'augmentation à chaque fois depuis les 4 dernières décisions à peu près. Et je pense qu'on va passer à 50 points de base pour les mois qui viennent.
Certains d'ailleurs disaient récemment dans ce studio que peut-être qu'on allait revenir à un moment où les mots des banquiers centraux allaient suffire. Vous savez, quand le simple discours de la forward guidance est suffisant pour calmer les esprits sans forcément avoir des actes de politique monétaire.
Alors il faut voir que les marchés surréagissent à ces nouvelles.
C'est juste hallucinant.
Le CAC 40 à 6006 les chiffres de l'inflation américaine, où pourtant c'était vraiment de l'ordre de la virgule. Dow Jones pareil, enfin donc c'était vraiment incroyable.
Un bon chiffre d'inflation US et le Nasdaq fait plus 7,3% en clôture ce jour-là, on n'avait jamais vu ça. Pensez que la BCE va décélérer aussi parce qu'elle n'est pas...
Non.
Autant les Fed Funds sont à peu près à 4%, 3,75-4, le refi il est à 2.
Hein, donc oui, je pense que pour la BCE c'est plus compliqué, encore une fois je l'ai dit plusieurs fois ici à cause des différents pays qui ont des rythmes d'inflation très différents et on voit dans les pays baltes notamment c'est très élevé. Donc je pense que ça va continuer, mais peut-être pas à 75 points de base. Mais elle va continuer. Mais en tout cas, le là est vraiment donné par la Fed. Donc, il faut regarder décembre ce que va faire la Fed.
Et c'est Stiglitz qui avait raison il y a 3 semaines à moi dans une tribune publiée par les Échos. Arrêtez tout à la Fed.
Mais non,
c'est
faut
bon,
pas
c'est bon.
Trop
mais non,
tôt.
Mais c'est bon. Il disait, on est au moment où l'inflation va se résorber d'elle-même.
Non, faut pas.
Si vous en mettez trop.
Tôt.
Bon. Alors, c'était Fitch qui disait, il vaut mieux trop en faire que pas en faire assez en termes de resserrement.
Bon, enfin, ça a quand même des impacts sur l'emploi.
Oui, mais clairement. Bon, en tout cas, là, on voit pour l'instant que, bon, Nathalie Janson, 2023, année heureuse. Bon, on n'arrête pas de dire sur BFM Business que si en plus il y a une petite volte-face un peu imprévue en Ukraine, on peut faire 2 à 3% de croissance en 2023, alors que tout le monde se dit qu'on sera péniblement à 0,3 ou je ne sais pas combien, en zone euro. Hein.
Bon, je vais un petit peu trancher.
Ah, alors allez-y, vous avez le droit.
Alors, je ne vais pas dire qu'on va dans un monde terrible. Je vais juste dire qu'en fait, je vais reprendre mon bâton de maréchal avec l'inflation. En fait, l'inflation, c'est un processus qui se diffuse. Alors, les effets ne sont pas immédiats.
Vous êtes convaincu de l'idée que ça vient quand même d'un excès de monnaie.
Oui, quand on voit la taille des bilans des banques centrales, bon, on a peu de mal à croire que ça vient d'ailleurs.
Non, parce qu'il y a ceux qui vous défendent mordicus, que c'est importé, mon téléphone, c'est rare.
La banque centrale, elle a quand même multiplié son... Il en parle de multiples.
On peut pas imaginer
une dizaine d'années.
La théorie monétaire de l'inflation.
Et je pense que la façon dont elle s'insère, elle arrive dans l'économie, est beaucoup plus compliquée que ça ne l'était il y a 20, 30 ou 40 ans. C'est aussi vrai. Donc, je pense, moi, pour le coup, que le fait qu'on n'ait pas un constat catastrophique, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand on va ralentir l'inflation, c'est pas demain matin que tout s'arrête. Hein. Donc, il faut du temps. Donc, il y a toujours des décalages dans le temps. Et puis, il va y avoir, s'il commence à ralentir la hausse des taux, comme il a été dit juste avant, et je partage d'ailleurs, je pense qu'effectivement, si c'est confirmé cette tendance de l'inflation qui se ralentit, et d'ailleurs les prix à la production aux États-Unis le montrent aussi, c'est un indicateur avancé, ils sont
très
moins élevés qu'en Europe, ils sont plutôt à nouveau autour de 15 à 20%, je crois, alors que nous, on est toujours entre 20 et 40 selon les pays.
Vous vous rendez compte, hein?
Donc,
prêt à la production.
Oui, prêt à la production.
Plus 20 à 40.
Et donc, dans certains pays, c'est effectivement en Europe, on a une cartographie différente. Donc, si on fait ça, effectivement, ça va se ralentir. Et donc, on va reprendre, en fait, on va arrêter d'augmenter les taux directeurs. On va continuer quand même à avoir des taux à la hausse, parce qu'il ne faut pas oublier que si les banques centrales font ce qu'elles ont promis, et qu'elles ne vont plus réinvestir la totalité des titres qu'elles ont achetés lorsqu'ils sont échus.
C'est le moment clé.
Voilà.
C'est le moment clé.
Et ça, c'est très important parce que la dernière fois que la Fed a tenté de le faire, elle ne l'a pas fait jusqu'au bout. puisque c'était juste avant le Covid, en 2019. Donc, on peut se dire que si jamais... Donc là, les marchés sont tout contents, parce qu'on vient juste de dire que peut-être que les taux vont moins augmenter, mais normalement, les taux vont continuer à augmenter pour cette raison. C'est-à-dire que si une banque centrale ne réinvestit plus l'intégralité des liquidités qu'elle reçoit quand les obligations souveraines viennent à échéance, forcément, elles vont contribuer à l'augmentation des taux. Forcément. Donc, les marchés vont continuer à avoir des taux élevés. Donc, on va voir ce qui va se passer, parce que plus on va rentrer dans cette phase, et si à nouveau les marchés en fait le réagissent mal à la continuité de taux à la hausse, eh bien finalement on va reprendre nos habitudes et on va continuer à repartir comme avant le Covid, où il n'y avait pas de goulot d'étranglement et où finalement l'inflation on la voyait pas, mais en tout cas elle était quand même là parce qu'elle est sur les marchés financiers. Je ne voudrais pas être lourde, mais j'insiste à nouveau.
Mais enfin, c'est des débats purs. Le débat BFM Business, quelle est l'origine exacte de l'inflation? Je voyais sur le point de réagir.
Juste un point, je voulais rajouter. Moi, je pense qu'il faut effectivement, ça avait été dit d'ailleurs, cette émission, j'ai été une fois, faire preuve de beaucoup d'humilité, parce que la situation qu'on connaît aujourd'hui est quand même très inédite. C'est-à-dire que l'inflation, l'origine de l'inflation aujourd'hui, c'est trois phénomènes, au moins. C'est le post-Covid, effectivement. C'est ce qui se passe sous les goulots d'étranglement, sous l'énergie aujourd'hui, compte tenu du conflit en Ukraine. Et c'est effectivement le financement, notamment les transitions écologiques. Donc on voit qu'il y a une multitude de facteurs qui viennent apporter de l'inflation, avec effectivement des réponses qu'on peut avoir aujourd'hui avec les armes dites conventionnelles, celles qu'on utilise d'habitude par les banques centrales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sait pas, on est dans un univers qu'on ne connaît pas exactement en termes de réaction. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est faire attention quand on reparle du terrain aux prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire, à force de dire, c'est pas ce qui est dit ici, hein, mais à force d'entendre ce qu'on peut entendre parfois, ça va pas aller demain, on va dans le mur, etc. On peut voir des chefs d'entreprise poser le crayon. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire preuve d'un angélisme et d'un sourire béat. Simplement, ce qu'on constate, c'est que la réalité de ce qui pourrait se passer est peut-être éloignée de ce qui nous était dit il y a encore quelques mois comme grande noirceur pour l'année 2023. Je pense qu'il faut quand même rester avec le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
J'ai souvent lu ce type de réaction à force d'entendre dans les médias, de regarder le prix du kilo de pâte au jour le jour et le prix des œufs. Ça finit par effectivement entretenir l'inquiétude et les fameuses anticipations. Ben, on va rester sur l'inflation. Je reste avec vous pendant le mois avec quelque chose de très concret. Demain, c'est mercredi. Il n'y aura plus 30 centimes de ristourne par litre de carburant, mais 10. Et en plus, si vous êtes client Total qui ajoutait 20 centimes, n'ajoutera plus que 10 centimes. Donc, chez Total, si vous payez 1,80 en moyenne votre gazole, ce sera 2,10 demain. 1,80, c'est le prix moyen en France, pas chez Total Energy, du litre de gazole. Demain, il est à 2 en moyenne. C'est un petit choc. Ça concerne tous les Français. C'est du jour au lendemain. Et on a presque salué Bruno Le Maire pour avoir finalement, plutôt qu'une politique de chèque directement envoyé aux agents économiques, mais une politique d'écrasement des prix contenu, cette inflation illimitée, la fameuse boucle prix-salaire. Là, on va avoir un phénomène, justement, on arrête d'écraser d'un coup.
Ça, par exemple,
certains disent, excusez-moi, mais pour terminer, qu'on n'a fait que reculer le moment où ça va, quoi qu'il arrive, peut-être commencer à se produire.
Moi, ce que ça m'inspire, c'est que ça, par exemple, c'est une différence entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis, l'inflation, pour une grande partie, en tout cas, n'est pas drivée par le fait que les prix d'énergie aient fortement augmenté. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle du carburant et de la subvention du carburant, on parle effectivement de maintenir une espèce de couvercle au-dessus de gens qui, tous les jours, ont besoin de leur voiture pour aller au travail, parce que c'est leur moyen de locomotion, parce que c'est parfois leur outil de travail. Et donc, ça peut générer une pression sociale assez forte que de voir ces prix remonter. Et cette composante inflation-là, c'est une composante inflation qui peut avoir un choc social assez fort.
Deuxièmement, on l'a vu il y a quelques années.
Exactement. Deuxièmement, moi, j'étais plutôt de ceux qui, quand on critique beaucoup le gouvernement parce qu'il a effectivement fait, entre guillemets, ses cadeaux, disaient que c'était plutôt une bonne action, parce que je considère qu'il vaut mieux éviter la boucle inflation-salaire, quitte à être critiquée parce qu'effectivement on subventionne temporairement le carburant, plutôt que de voir effectivement la boucle inflation-salaire se mettre en route et là rentrer dans une spirale qu'on ne maîtrise plus tout à fait. Donc moi je suis effectivement soucieux, je ne sais pas, en tout cas, mais vigilant à la réaction, à ce qui va se passer dans les semaines qui viennent en termes de réaction sociale et en termes de ce que ça pourrait vouloir dire dans les négociations salariales de les entreprises.
Il va falloir être très vigilant sur le risque de fake news dans les réseaux sociaux parce que je vois arriver d'ici gilets jaunes, réveillez-vous, Macron monte les taxes, ça n'est pas une hausse de taxes, c'est l'arrêt d'une ristourne. Il va falloir éviter la désinformation autour de ce qui va se passer parce que c'est vrai que 20 centimes d'un coup sur le litre de carburant qui, on le sait, est un prix pas comme les autres. On y va plusieurs fois par semaine. On voit défiler son porte-monnaie sous ses yeux. Quand tout d'un coup, on passe les 100 euros pour son plein, on se dit, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et donc, c'est particulier. Ça a beaucoup plus d'impact que le prix des œufs, que le prix du lait. Ou encore que le prix des pâtes. Il y a eu Meta, il y a quelques jours, qui a annoncé 11 000 suppressions de postes. Mark Zuckerberg a dit « Je pensais qu'on allait gagner beaucoup plus d'argent. » Bah, mais c'est malheureux, il ne gagne pas autant. 98% du chiffre d'affaires de Facebook, c'est la publicité. Et puis là, Amazon, alors ce n'est pas officiel. Pourtant, Amazon a toute une partie qui est la partie de son business la plus rentable, qui n'est pas celle que les gens connaissent. C'est Amazon World Services, toute l'activité de support numérique au e-commerce. Mais en tout cas, il pourrait supprimer 10 000 emplois, nous annonce le New York Times. On a souvent parlé des difficultés que rencontrent les GAFA aujourd'hui, à l'exception d'Apple, hein, qui est quand même vraiment le cas particulier. Est-ce que vous vous dites qu'on est arrivé à un moment de l'histoire où le formidable miracle de ces business models se fait rattraper ? Qui veut dire un mot là-dessus?
Je voulais Nathalie, juste une petite chose. Je pense aussi qu'Amazon, ils avaient beaucoup augmenté le nombre d'emplois pendant le Covid.
Ah, mais pas oublier, comme donc. Meta, ils ont quasiment doublé Meta. Ouais. Le miracle Covid.
Oui, enfin là c'était quand même conjoncturel pour Amazon. C'était dû au fait qu'on ne pouvait pas aller dans les magasins.
Ouais.
Donc voilà, il y a peut-être aussi un peu de ça. Après, je ne connais pas exactement la typologie des emplois.
Vous avez vu quand même que Meta a valu plus de 1 000 milliards de dollars en bourse. Ils sont à 270.
Oui, ça c'est autre chose. Je parlais spécifiquement d'Amazon.
Non, mais je suis d'accord que probablement il ne faut pas faire des généralités en disant GAFA, toujours GAFA, ça n'a pas toujours de sens.
C'est un peu lié à...
Non, mais vous l'avez dit, c'est un problème de publicité.
Sylvie Matera.
Pardon. C'est un problème de publicité. Leur business model est fondé sur la publicité. Compte tenu du contexte, notamment de l'inflation, certains annonceurs ont décidé de réduire le montant de publicité qu'elles donnaient à ces...
C'est le premier budget qu'on coupe. Hein.
Ben voilà. Alors... Et donc, comme c'est le premier budget qu'on coupe, comme c'est leur première source de financement, bon, ils ont des problèmes de financement.
Puis alors, Apple a fait un coup pendable, hein, parce qu'il y a 12-18 mois, ils ont dit désormais, tous ceux qui passent par un iPhone, vous leur demandez obligatoirement leur feu vert pour utiliser leurs données personnelles pour la publicité tracée. Il y a plus de la moitié des utilisateurs d'iPhone qui refusent. Mm-hmm. Et là, ça change vraiment la donne. Oui, Ronald Moal, allez-y.
Moi, je pense qu'il y a eu le post-Covid, effectivement, donc ça en est passé, ça revient un peu à la normalité. Il y a la publicité sur Internet, effectivement, qui d'abord arrive à une certaine forme de maturité, avant même de voir les choses régresser aujourd'hui parce qu'il y a moins de demandes. Deuxièmement, il y a tout ce que vous évoquez sur la régulation de la publicité sur Internet, le consentement du consommateur. Mm-hmm. Et le durcissement du consentement fait qu'en fait, c'est de plus en plus compliqué de valoriser sa pub, puisqu'avant, on dit autrement, on inondait le consommateur et globalement, on ne lui demande pas son avis. Aujourd'hui, bah, effectivement, Apple, il faut faire le consentement. Demain, interdiction de publicité via les cookies, etc. Donc tout ça fait que ça ralentit le phénomène de publicité. Puis il y a un troisième phénomène, c'est que, par exemple, Meta, qui fait quand même 4 milliards, je crois, de résultats, c'est qu'aussi une boîte qui investit lourdement dans le métaverse, qui est allant à centre de coûts aujourd'hui avant d'être à centre de profit, si c'en est un, peut-être demain. Bezos a eu raison il y a très longtemps avec Amazon, donc il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain.
Oui, c'est vrai.
Ça pèse très fortement. Et effectivement, il y a deux différences dans les GAFAM. Il y a notamment Apple et Microsoft, qui tous les deux, dans des registres différents et avec des pondérations différentes, jouent sur l'existence d'un produit. Le produit de la suite
c'est
Microsoft
un peu la vraie
et puis
vie,
le produit
hein.
Apple. Donc, voilà, donc il y a tous ces phénomènes-là qui jouent.
C'est la vraie vie. Quand vous regardez, parce que Nathalie parlait du post-miracle Covid, l'action Deliveroo s'est écroulée parce qu'on commande moins de repas.
Bah oui.
On se met à acheter beaucoup, beaucoup plus de voyages. Il y a effectivement toutes ces activités qui ont été presque artificiellement portées par Covid qui, en fait, c'est un atterrissage.
Oui, dans certains cas, c'est un atterrissage, oui. Parce que c'était pas normal, cette partie de l'activité. C'est venu résoudre un problème. On ne pouvait pas sortir de chez nous. Et maintenant qu'on peut sortir de chez nous, voilà.
Depuis son plus haut, Zoom a perdu 87%.
Oui, c'est...
Donc, on faisait que de la visio.
Exactement.
Non, mais comme quoi, voilà, on a souvent dit, oh là là, le miracle du télétravail ou la révolution du télétravail, on va laisser quelques années passer pour être sûr que ce soit vraiment quelque chose qui s'est installé.
Très Zoom est toujours là pour certaines activités, mais évidemment beaucoup moins.
Ce qui est très frappant, d'ailleurs, c'est de voir les chaînes de télé. Maintenant, elles ont régulièrement des gens en visio avec la petite caméra de l'ordinateur. Si les images ne sont pas top, c'est un truc que faisaient jamais les télés, les chaînes d'infos avant. Et maintenant, c'est constamment. Et c'est pas si bon, d'ailleurs. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Je vais dire, peut-être la vraie révolution, ce n'est pas tellement le fait, ce qu'on a pu croire tous, que c'était Zoom demain, Teams ou autre chose. La vraie révolution, je plaide un peu pour ma paroisse, entre guillemets, c'est de se dire que peut-être que demain, on peut avoir une vision de l'économie qui est un peu plus décentralisée qu'aujourd'hui. C'est-à-dire de dire on peut avoir peut-être plus d'entreprises en région, plus à distance, sans forcément parler d'outils de travail à distance. Ça, je pense, c'est peut-être le vrai modèle qui va émerger suite à ce qui s'est passé le Covid. Mais par contre, le tout Zoom, le tout Teams ou autre chose, ça, je pense
ça,
que personne n'en veut.
C'est Ronan le Breton qui parle.
Vous savez, moi j'ai découvert pendant le
Covid. Si on réindustrialise, c'est pas avec l'Île-de-France qu'on y arrivera.
Oui, exactement.
Façon,
surtout,
ça,
il y a beaucoup de gens qui ont découvert pendant le Covid, alors, j'en faisais pas partie par définition, parce que j'étais un peu concerné depuis très longtemps, qu'en fait on pouvait très bien travailler en remote, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire forcément en Zoom, mais éloigné du site principal de son activité pendant 2, 3, 4, 5 jours et ne venir qu'un jour ou deux par Paris. Il y a beaucoup de gens, ça fait paraître paradoxal, qui ont découvert ça dans pas mal d'activités, pas forcément les activités dites industrielles, mais ont découvert également que les industries pouvaient trouver des mètres carrés moins chers, les turnover plus faibles en région plutôt qu'à Paris. C'est ça peut-être pour moi qui peut être, et c'est sans doute un des grands enjeux des 10 ans qui viennent, un des grands mouvements qu'on peut avoir pour réindustrialiser la France. En tout cas, il faut utiliser ce terme.
Tiens, vous avez déjà fait du métaverse ou pas? Mis un casque?
Oui.
Oui. Vous y croyez au métaverse, l'intelligence?
Oh bah ça, c'est une forme de métaverse.
Moi, je pense que je suis un peu trop vieux. On m'a dit que si on met ce casque sur les yeux et qu'on se balade là-dedans, on commence à avoir la nausée quelquefois au bout de deux minutes.
Bon, ça dépend du casque.
Oui, d'accord. Alors. Mais l'une des sanctions concernant Meta, c'est de dire que Mark Zuckerberg y croit dur comme fer. Il y met 10 milliards de dollars par an, effectivement. C'est plus un centre de coût qu'un centre de profit. Et il y en a certains parmi les investisseurs qui se demandent si ça va intéresser quelqu'un, quoi. Alors, je sais que Frédéric Simotel, qui nous écoute souvent, veut surtout pas qu'on enterre le métaverse comme quelque chose de mort.
Surtout que c'est plus que 1, puisqu'en fait, on ne sait pas. Parce que on sait que c'est du Web 3. Mais là, c'est une version avec immersion, avec réalité. Voilà, vous êtes en immersion avec un casque. C'est une forme, mais il y a plein de métavers possibles.
Oui. Moi, vous vouliez réagir là-dessus?
Moi, j'ai déjà du mal à me servir de mon iPhone. Alors, métavers, j'y suis pas encore. Hein.
Non, mais récemment, j'ai rencontré une entreprise de taille assez moyenne qui a pris une taille mondiale. Ils n'ont aucun bureau. Les réunions. Building.
Oui, sont en visio.
Tu mets ton casque et tu vas retrouver tes potes au bout du monde en visio. Ça fait pas rêver. Il y a sûrement des.
C'est écolo.
Bon, il y a une question de génération.
Oui, une question de génération. Tiens, Ronald, on a 5 minutes 30. En fait, j'ai éclusé tous les sujets que j'avais prévus, donc c'est bien. J'aimerais quand même vous faire réagir sur un chiffre qui m'a frappé. Parce qu'on parle de GAFA qui connaissent des difficultés. Quand même, les chiffres de Meta, c'est un chiffre d'affaires qui recule depuis 6 mois, des profits qui ont été divisés par 2, une capi boursière divisée par 4. Quand même, ce sont des choses qui sont impressionnantes. Et on le sait, mais quand ça va mieux en le disant, l'Irlande se dit « Ouh, c'est peut-être le moment de s'inquiéter » parce qu'en fait, 10% des recettes fiscales, 70% des recettes d'impôts sur les sociétés de l'Irlande viennent de 10 multinationales américaines. Et elles s'appellent Google, Amazon, Facebook, Apple, Intel, Pfizer, Merck, Coca-Cola, Johnson & Johnson, il doit en manquer une ou deux. Fabuleux miracle du 12,5% de taux d'IS qui a fait le succès de l'Irlande, il y a un moment, ça peut basculer.
L'image qui me vient spontanément à l'esprit, c'est ce que je disais toujours à mes clients quand on leur proposait des produits dans la banque. Que si vous choisissez un produit uniquement pour la fiscalité, c'est attention parce que vous allez peut-être oublier les sous-jacents du produit en tant que tel. Alors, l'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, à partir du moment où on a une dépendance économique, c'est le cas de l'Irlande notamment, à un sujet fiscal, c'est-à-dire effectivement un taux d'imposition qui est plus faible, et on joue sur la base, donc le volume des gens qui viennent chez vous, on est soumis à l'aléa fiscal et l'aléa d'activité. C'est le revers de la médaille. Donc, je sais pas si c'était prévisible, en tout cas, c'est assez classique dans le domaine de la fiscalité. Ouais, et au-delà de ça, en tant que citoyen, moi, j'ai toujours été plutôt pour une forme d'équité fiscale de ce point de vue-là, et donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà.
Ouais. Et Dublin va aussi bénéficier du Brexit. Vous en avez pas parlé, vous aviez parlé en intro du fait que la Bourse de Paris
c'est
la Bourse de Londres.
On peut dire un mot de ça, on a 3 minutes 40.
Dublin va aussi bénéficier bénéficié du Brexit, donc. Ryanair, par exemple, s'est installé là-bas.
Voilà, c'est la concurrence, c'est la sanction de l'économie de marché libre, c'est la faillite. Et la concurrence, c'est ça. On a joué sur la concurrence fiscale. Mmh. C'est le seul point sur lequel les Irlandais étaient restés inflexibles aux exigences de Bruxelles. Quand on leur disait, on vous aide, mais vous allez devoir réformer ci, cela, ils n'ont jamais voulu toucher au taux d'impôt sur les sociétés.
Ceci dit, ils se sont beaucoup développés.
Un peu particulier
Nathalie, des recettes. Ça
mais je n'ai pas dit que c'était. Vite, oui, mais ils ont quand même beaucoup profité de ces revenus.
Ouais, c'est quand même un business model spécifique de vouloir toucher. C'est quand même du dumping, faut pas.
Et d'ailleurs, ils ne s'en sont jamais vraiment cachés. Justement, 2 minutes 50, Paris double Londres.
Double Londres.
Passe devant.
De justesse.
Oui, alors effectivement,
pour l'instant,
8 milliards 230 millions de dollars de capi à Paris, 2 milliards de moins chez les Anglais. Non, je me suis planté.
Enfin, c'est pas grave.
Non, c'est 8233 milliards.
Voilà.
Bon, waouh.
Non, mais en fait, oui.
C'est un événement ou pas?
Ah oui, c'est le début d'un événement. Effectivement, Paris, avec le Brexit, il y a beaucoup. Pour l'instant, les effets du Brexit ont un peu été masqués par le Covid, la guerre en Ukraine. Et quand les premières analyses économiques regardent les conséquences du Brexit, en fait, il est très difficile de distinguer ce qui est lié au Brexit et ce qui est lié aux crises qui ont suivi. Mais je pense que de plus en plus, ça va se voir. Et effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient utilisé Londres et la City comme tête de pont pour pouvoir, notamment dans le domaine financier, bénéficier du passeport européen et travailler dans le reste de l'Europe. C'est plus possible aujourd'hui. Donc, ces entreprises doivent avoir une présence physique en Europe. Beaucoup d'opérations, les opérations qui ont un intérêt euro doivent être traitées et négociées en zone euro. Et donc, c'est normal que... En fait, ça serait passé sans doute plus rapidement si on avait eu une place financière qui avait émergé en Europe.
Or, fusions de places financières.
Oui, mais...
Oui,
mais en termes de... On n'a pas un système financier européen qui se caractérise par une place majoritaire. On a un système plutôt polycentrique avec Francfort, Amsterdam, Paris.
Un mot là-dessus, on a une minute, dans le moral, alors Nathalie, mais...
Ce qui me surprend le plus, c'est le fait que la capille à Londres est divisée par deux, en fait, parce qu'effectivement,
oui,
la France passe
devant. Oui, si effectivement Paris passe devant, c'est que Londres a beaucoup baissé.
Ça divise par deux, c'est effectivement lié à tous les phénomènes qu'on évoquait là, c'est aussi au fait que...
Ah, il y a le sterling aussi qui a baissé.
La du luxe très présente dans le CAC 40 se porte très très bien, et on sait très bien que l'industrie du luxe, en situation de crise, paradoxalement, ce sont les actifs qui se portent paradoxalement le mieux, parce que la sensibilité prix des gens qui achètent est relativement faible. Donc il y a plein de phénomènes. Il y a effectivement ce phénomène de retour un peu vers les places européennes, là où il y a l'euro, c'est important. Il y a effectivement la composante luxe dans l'indice CAC 40 qui se porte bien. Il y a l'évolution, et là on le voit bien, je crois que sur les quelques dernières années, à Londres c'était stable en termes d'indice, en Europe, en France on a fait plus 15 ou 20%.
Ouais. Voilà, donc, le sterling a joué.
On a fini, mais le mot de la fin, Nathalie.
Et il ne faut pas oublier, on les a peut-être battus là-dessus, mais ça reste quand même un hub très important sur le trading des devises.
Oui.
Sur les marchés.
Puis il y a la compensation centrale qui reste pour l'instant à Londres.
Donc on l'a bâti sur un point, mais pas sur tout.
Il m'a fallu 4 essais pour dire 2823 milliards. 4 essais.
Voilà.
C'est grave.
C'est beaucoup.
Ça fait beaucoup de milliards. C'est pas loin du PIB de la France. On est à 2004.
Oui.
2823 milliards d'euros, c'est la capitale de Paris. 2821 milliards d'euros, c'est la capitale.
Bravo.
Bon, eh ben merci à vous d'avoir été là, Nathalie Janson, Sylvie Matera, Ronan Le Moal. Non, 2023 ne sera pas forcément catastrophique. On se retrouve demain à 9h.
Merci.